Chapitre 23. Les Horcruxes. À son retour, lorsqu'il se glissa à l'intérieur du château, Harry sentit les effets de Félix Félicie se dissiper. La porte d'entrée n'était toujours pas verrouillée, mais il tomba sur Peeves, au troisième étage, et eut tout juste le temps de s'engouffrer dans l'un de ses raccourcis pour éviter que sa présence ne soit détectée. Quand il arriva enfin devant le portrait de la grosse dame, il ôta sa cape d'invisibilité et ne fut pas surpris de la voir très peu disposée à l'aider.
« C'est une heure pour rentrer, ça ?»«
Je suis désolé, j'ai dû sortir pour un important... »«
Eh bien, le mot de passe a changé à minuit. Vous n'aurez qu'à dormir dans le couloir, d'accord ?»«
Vous plaisantez ?» protesta Harry. « Pourquoi a-t-il changé à minuit ?»«
C'est comme ça !» répliqua la grosse dame. « Si vous n'êtes pas content, allez donc vous expliquer avec le directeur. C'est lui qui a renforcé la sécurité. »
« Fantastique !» dit Harry d'un ton amer, en contemplant le sol dur. « Une idée vraiment brillante. Oui, j'irais volontiers m'expliquer avec Dumbledore s'il était là, parce que c'est lui qui a voulu que... »«
Il est là !» lança une voix derrière Harry. « Le professeur Dumbledore est revenu à l'école il y a une heure !»
Nick, quasi sans tête, flottait vers lui, sa tête vacillant sur sa fraise comme à son habitude.
« Le baron sanglant m'a dit qu'il avait vu arriver, » déclara Nick. « À n'en croire, il avait l'air de bonne humeur, quoiqu'un peu fatigué, bien sûr. »«
Mais où est-il ? » demanda Harry, qui sentit son cœur bondir dans sa poitrine.
« Oh ! Il gémit et fait des bruits de chaîne dans la tour d'astronomie. C'est un de ses passe-temps préférés,
pas le baron sanglant Dumbledore.
« Ah ! Ben, il est dans son bureau !» répondit Nick. « D'après le baron, il devait encore s'occuper de certaines choses avant d'aller se coucher.
« Ça, c'est vrai. Il va avoir de quoi s'occuper, » approuva Harry. Il brûlait d'excitation à l'idée d'annoncer à Dumbledore qu'il était en possession du souvenir. Il tourna les talons et repartit à toutes jambes, indifférente à la grosse dame qui criait derrière lui.
« Revenez ! J'ai menti ! J'étais énervé parce que vous m'aviez réveillé ! Le mot de passe est toujours « faire solitaire !»
Mais Harry avait déjà filé à l'autre bout du couloir et quelques minutes plus tard, il lançait « Éclair au caramel !» à la gargouille de Dumbledore qui fit un pas de côté, permettant à Harry d'accéder à l'escalier en colimaçon.
« Entrez !»
répondit Dumbledore lorsque Harry eut frappé, sa voix semblait épuisée. Harry poussa la porte. Le bureau avait le même aspect qu'à l'ordinaire. Mais, cette fois, on voyait à travers les fenêtres un ciel noir parsemé d'étoiles.
« Bonté divine, Harry !»
dit Dumbledore, surpris.
« Que me vaut le plaisir de ta visite ?»«
Monsieur, ça y est, je l'ai. Slughorn m'a confié son souvenir. »
Harry sortit de sa poche le minuscule flacon et le montra à Dumbledore. Pendant un moment, le directeur parut abasourdi. Puis son visage se fendit en un large sourire.
« Harry, c'est une merveilleuse nouvelle. Bravo ! Je savais que tu y parviendrais. »
Oubliant complètement l'heure tardive, il contourna son bureau, prit de sa main indemne le flacon qui contenait le souvenir de Slughorn et s'avança vers l'armoire où était rangée la pancine. Il posa la bassine de pierre sur la table et y vida le contenu du flacon.
« Maintenant, »
dit Dumbledore,
« nous allons enfin savoir. Vite, Harry !»
Celui-ci se pencha docilement sur la pancine et sentit ses pieds quitter le sol. Une fois de plus... Il tomba dans l'obscurité et atterrit dans le bureau d'Horace Slughorn, bien des années auparavant. Le Slughorn, beaucoup plus jeune, lui apparut à nouveau avec ses cheveux épais et brillants, d'une couleur jaune paille, et sa moustache d'un blond roux. Il était toujours enfoncé dans un fauteuil confortable, ses pieds posés sur un pouf de velours, un petit verre de vin dans une main, l'autre tâtonnant dans une boîte d'ananas confit. Les six garçons étaient assis autour de lui. Tom Jedusor au milieu, la bague noire et or de Gaunt luisant à son doigt. Dumbledore rejoignit Harry au moment où Jedusor demandait
« Monsieur, Et est-il vrai que le professeur Tétangeois prend sa retraite ?
Tom, même si j'étais au courant, je ne pourrais pas vous le dire, répondit Slughorn, agitant vers lui un index réprobateur tout en clignant de l'œil.
Je dois avouer que j'aimerais bien savoir d'où vous tenez vos renseignements, mon garçon. Vous êtes mieux informé que la moitié des enseignants.
Gédusor sourit, les autres éclatèrent de rire en lui lançant des regards admiratifs.
Avec votre étrange aptitude à connaître des choses que vous devriez ignorer et le soin que vous prenez à flatter les gens importants. Au fait, merci pour l'ananas, hein ? Vous aviez parfaitement raison, c'est mon préféré.
Il y eut des rires parmi les élèves.
Je ne doute pas que vous deviendrez ministre de la magie dans 20 ans. 15, si vous continuez à m'envoyer des ananas, hein ? J'ai d'excellents contacts au ministère.
Tom Gédusor se contenta de sourire, tandis que les autres s'esclaffaient à nouveau. Harry remarqua qu'il n'était pas, et de loin, le plus âgé du groupe, mais que tous semblaient le considérer comme leur chef.
« Je ne crois pas que la politique soit ma vocation, » dit-il, lorsque les rires se furent dissipés. « D'abord, je ne pense pas être issu du milieu qui convient. »
Deux des garçons qui l'entouraient échangèrent un sourire. Ils devaient partager, pensa Harry, une plaisanterie qu'ils étaient seuls à connaître, liée sans aucun doute à ce qu'ils savaient ou soupçonnaient de l'illustre ancêtre dont descendait leur chef.
« Allons donc !» répliqua vivement Slughorn. « Avec des dons comme les vôtres, il est bien évident que vous venez d'une lignée de sorciers très honorable. Croyez-moi, vous irez loin, Tom. Je ne me suis encore jamais trompé sur un de mes élèves. »
La petite pendule d'or sur le bureau de Slughorn sonna 11 heures derrière lui, et il se retourna.
« Oh, ponte divino, il est déjà si tard. Bon, il est temps que vous y alliez, les garçons, ou nous aurons tous des ennuis. Lestrange, je veux votre devoir demain, sinon je vous donne une retenue. C'est également valable pour vous, Avery. »
Un par un, les garçons sortirent de la pièce. Slughorn se hissa hors de son fauteuil et alla poser son verre vide sur son bureau. Un bruit dans son dos lui fit tourner la tête. Gédusor était toujours là.
« Ouvrez l'œil, Tom, hein ! Il ne faut pas vous laisser surprendre, hors de votre lit à cette heure-ci. Vous êtes préfet !»«
Monsieur, je voulais vous demander quelque chose. »«
Demandez, mon garçon, demandez !»«
J'aurais voulu savoir ce que vous pouviez me dire des Horcruxes. »
Slughorn le regarda, ses doigts épais caressant machinalement le pied de son verre de vin.
« Vous faites une recherche pour le cours de défense contre les forces du mal ?»
Mais Slughorn, Harry le voyait bien, savait parfaitement qu'il ne pouvait s'agir d'un devoir.
« Pas vraiment, monsieur, » répondit Gédusor. « Je suis tombé sur ce mot dans un texte que je lisais, et je ne l'ai pas totalement compris. »«
Non, bien sûr. Vous auriez beaucoup de mal à trouver à Poudlard un livre qui vous donne des détails. » « Sur les Horcruxes, Tom. C'est de la magie très noire, très, très noire, »
déclara Slughorn.
« Mais vous savez sûrement tout sur le sujet, monsieur. Un sorcier tel que vous, excusez-moi, peut-être que vous ne pouvez rien me dire, mais pour moi, il était évident que si quelqu'un était capable de m'en parler, ce serait forcément vous, hein ? Voilà pourquoi j'ai pensé à vous demander. »
C'était fait à merveille, songea Harry. L'hésitation, le ton dégagé, la flatterie mesurée, tout était très bien dosé. Lui-même avait trop souvent dû user d'artifice afin d'arracher à des personnes réticentes des informations utiles pour ne pas reconnaître un maître en la matière. Il voyait que Gédusor tenait absolument à obtenir une réponse à sa question. Peut-être préparait-il ce moment depuis des semaines.
« Eh bien, »
répondit Slughorn sans le regarder, en tripotant le ruban qui ornait sa boîte d'ananas confit,
« j'imagine que ça ne peut pas faire de mal si je vous donne une idée générale. Pour que vous compreniez simplement le sens du mot « horcrux » est le terme qu'on utilise pour désigner un objet dans lequel une personne a dissimulé une partie de son âme.
« Je ne vois pas très bien le principe, »
dit Gédusor. Sa voix était soigneusement contrôlée, mais Harry percevait son excitation.
« Il s'agit de séparer son âme en deux, » reprit Slughorn, « et d'en cacher une partie dans un objet en dehors du corps. Ainsi, même si son corps est attaqué ou détruit, on ne peut pas mourir parce qu'un morceau de l'âme reste attaché à la vie terrestre sans avoir subi de dommages. Mais bien sûr, l'existence sous une telle forme... » Le visage de Slughorn s'affaissa, et Harry se rappela les paroles qu'il avait entendues près de 2 ans auparavant.
« Je me suis senti arraché de mon corps, réduit à moins qu'un esprit moins que le plus infime des fantômes, mais j'étais quand même vivant. »
Rares sont ceux qui en voudraient. Tom, très rare. La mort serait préférable.
La soif d'en savoir plus était à présent apparente sur le visage de Gédusor. Il ne pouvait plus cacher son avidité.
Et comment fait-on pour séparer son âme en deux?
Eh bien, dit Slughorn mal à l'aise, il faut comprendre que l'âme est censée rester entière et intacte. La diviser est une violation, quelque chose contre nature.
Mais comment fait-on?
Par un acte maléfique. L'acte maléfique suprême, en commettant un meurtre. Tuer déchire l'âme. Le sorcier, désireux de créer un horcrux, tourne à son avantage cette destruction. Il enferme la partie arrachée.
Il l'enferme. Mais comment?
Il existe un sortilège. Ne me demandez pas lequel, je ne connais pas. Je ne connais pas.
Répliqua Slughorn en hochant la tête comme un vieil éléphant importuné par des moustiques.
Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui a essayé? Est-ce que j'ai l'air d'un tueur? Non, non. Non, 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 non. Oh, non, 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 non.
Non, monsieur, bien sûr que non. S'empressa de répondre Gédusor. « Je suis désolé, je n'avais pas l'intention de vous offenser. »«
Mais pas du tout. Oh non, non, pas du tout. Non, non, je ne suis pas offensé, le moi du monde, » assura Slughorn d'un ton bourru. « Il est tout naturel d'éprouver de la curiosité pour un tel sujet. Les sorciers, d'une certaine envergure, ont toujours été attirés par ce genre de magie. Non, non, non. »«
Oui, monsieur, » dit Gédusor. « Ce que je ne comprends pas, cependant, » il s'agit d'une simple curiosité de ma part. C'est, est-ce qu'un seul horcrux aurait beaucoup d'utilité? Ne peut-on séparer son âme qu'une seule fois? N'obtiendrait-on pas un meilleur résultat, une plus grande force, si l'on parvenait à diviser son âme en plusieurs morceaux? Par exemple, le chiffre 7 n'est-il pas celui qui possède la plus grande puissance magique? Est-ce que 7...
Par la barbe de Merlin, Tom, glapit Slughorn. 7! N'est-il pas suffisamment horrible de penser qu'on peut tuer une seule personne? Déchirer son âme est déjà une idée épouvantable. Alors la déchirer en 7 morceaux?
Slughorn paraissait profondément troublé à présent. Il observait Gédusor comme s'il ne l'avait jamais vraiment vu auparavant. Et Harry se rendait compte qu'il regrettait de s'être laissé entraîner dans cette conversation.
« Bien entendu, » marmonna-t-il, « tout ce dont nous parlons est du domaine de la théorie, n'est-ce pas? C'est une discussion académique. »«
Oui, bien sûr, monsieur, » répondit précipitamment Gédusor.
« Mais quand même, Tom, ne répétez pas ce que je vous ai dit, enfin, ce dont nous avons parlé, ce serait mal vu si l'on apprenait que nous avons eu une conversation sur les horcruxes. C'est un sujet tabou à Poudlard. Vous comprenez, Dumbledore est particulièrement féroce en la matière.
Je n'en dirai pas un mot, monsieur, promis Gédusor.
Il sortit alors du bureau, mais Harry eut le temps d'entrevoir sur son visage la même exaltation sauvage qu'il avait manifestée en apprenant sa nature de sorcier. Cette sorte de ravissement qui, loin d'accentuer la beauté de ses traits, leur enlevait d'une certaine manière un peu de leur humanité.
« Merci, Harry !» murmura Dumbledore. « Allons-y !»
Lorsque Harry atterrit à nouveau dans le bureau, Dumbledore était déjà assis derrière sa table. Harry s'installa à son tour et attendit qu'il prenne la parole.
« Oh ! Il y a longtemps que j'attendais ce témoignage !»
dit-il enfin.
« Il confirme la théorie sur laquelle j'ai travaillé. Je sais désormais que j'ai eu raison. Je sais aussi combien est long le chemin qui reste à parcourir. »
Harry remarqua soudain que tous les anciens directeurs et directrices représentés dans les portraits accrochés au mur s'étaient réveillés et écoutaient leur conversation. Un sorcier corpulent au nez rouge avait même un cornet acoustique dans l'oreille.
« Harry, »
reprit Dumbledore,
« je suis sûr que tu comprends la signification de ce que nous venons d'entendre. Au même âge que le tien aujourd'hui, à quelques mois après, Tom Jedusor faisait ce qu'il pouvait pour trouver le moyen de se rendre immortel. »
« Et vous croyez qu'il a réussi, monsieur ?» demanda Harry. « Il a créé un Horcrux. C'est pour ça qu'il n'est pas mort quand il m'a attaqué. » Il avait un Horcrux caché quelque part. Un fragment de son âme était préservé.
« Un fragment ou davantage ?»
dit Dumbledore.
« Tu as entendu, Voldemort. Ce qu'il voulait surtout apprendre d'Horace, c'était ce qui se passerait si on créait plus d'un Horcrux. Ce qui arriverait à un sorcier si résolu à échapper à la mort qu'il serait prêt à commettre de nombreux meurtres, à déchirer son âme à plusieurs reprises pour la conserver dans des horcrux dissimulés en différents lieux. Aucun livre n'aurait pu lui fournir cette information. Pour autant que je le sache, et j'en suis sûr, pour autant que l'ait su Voldemort, aucun sorcier n'avait jamais séparé son âme en plus de deux parties. »
Dumbledore s'interrompit un instant, rassemblant ses pensées, puis il poursuivit.
« Il y a 4 ans, j'ai eu ce que je considérais comme une preuve que Voldemort avait détaché un morceau de son âme.
« Où ?» demanda Harry. « Comment ?»«
Mais c'est toi qui me l'as fourni, Harry. »
répondit Dumbledore.
« Le journal intime, le journal de Jedusor, celui qui indiquait comment rouvrir la chambre des secrets. »«
Je ne comprends pas, monsieur, » dit Harry.
« Je n'ai pas vu le Jedusor qui est sorti de ce journal intime, mais ce que tu m'en as décrit constituait un phénomène dont je n'avais jamais été témoin. » Un simple souvenir qui se serait mis à agir et à penser par lui-même. Un simple souvenir consumant l'énergie vitale de la jeune fille entre les mains de laquelle il était tombé. Non, c'était quelque chose de beaucoup plus redoutable qui habitait ce livre. Un morceau d'âme, j'en étais presque sûr. Ce journal intime était un horcrux. Mais cette conclusion soulevait autant de questions qu'elle apportait de réponses. Ce qui m'intriguait et m'alarmait le plus, c'était que le journal était conçu comme une arme autant qu'une sauvegarde.
« Je ne comprends toujours pas, » répéta Harry.
« Eh bien, il fonctionnait comme est censé fonctionner un horcrux. » En d'autres termes, le fragment d'âme qui y était caché se trouvait en sécurité et avait sans nul doute joué son rôle en empêchant la mort de son propriétaire. Mais il était évident que Jedusor souhaitait qu'on lise ce journal. Il tenait à ce que cette part de son âme habite ou possède quelqu'un d'autre, afin que le monstre de Serpentard soit à nouveau libéré.
Il ne voulait pas que ce travail considérable soit perdu, dit Harry. Il voulait qu'on sache qu'il était l'héritier de Serpentard parce qu'il ne pouvait s'en prévaloir à l'époque.
« Parfaitement exact !»
approuva Dumbledore avec un hochement de tête.
« Mais ne vois-tu pas, Harry, que s'il avait l'intention de faire passer ou d'imposer ce journal à un futur élève de Poudlard, cela signifiait qu'il attachait bien peu d'importance au précieux fragment de son âme qui s'y trouvait caché. Comme l'a expliqué le professeur Slughorn, l'objectif d'un Horcrux consiste à dissimuler une part de soi-même pour la conserver hors d'atteinte et non pas à la mettre sous les yeux de quelqu'un d'autre en courant le risque qu'elle soit détruite. Comme cela s'est d'ailleurs produit, ce fragment d'âme a été anéanti, tu t'en es chargé toi-même. Le peu de considération accordée par Voldemort à cet Horcrux m'a semblé de très mauvais augure. Cela signifiait qu'il avait créé, ou qu'il avait l'intention de le faire, d'autres Horcrux. La perte de celui-ci ne lui était donc guère préjudiciable. Je ne voulais pas le croire. Mais c'était la seule hypothèse logique. Tu m'as dit alors, 2 ans plus tard, que la nuit où Voldemort a réintégré son corps, il a fait au Mangemort une déclaration très révélatrice et très alarmante. Moi qui suis allé plus loin que quiconque sur le chemin qui mène à l'immortalité, ce sont les paroles que tu m'as rapportées, plus loin que quiconque. Je pensais savoir ce que cela signifiait, même si les Mangemorts, eux, l'ignoraient. C'était une référence à ces Horcrux. Ces Horcrux au pluriel, Harry, ce dont aucun autre sorcier n'avait jamais disposé jusqu'alors, j'en suis convaincu. Tout se tenait. Lord Voldemort semblait devenir de moins en moins humain à mesure que les années passaient, et sa transformation ne pouvait s'expliquer à mes yeux que par la mutilation qu'avait subie son âme au-delà des limites de ce qu'on appelle habituellement le royaume du mal.
Il a donc assassiné d'autres personnes pour qu'on ne puisse plus le tuer lui-même, interrogea Harry. Pourquoi n'avoir pas plutôt fabriqué une pierre philosophale ou en avoir volé une s'il était tellement attiré par l'immortalité?
Oh, nous savons qu'il a essayé, il y a 5 ans, répondit Dumbledore. Mais il existe diverses raisons pour lesquelles je pense qu'une pierre philosophale aurait eu moins d'attrait que des Horcrux aux yeux de Lord Voldemort. Certes, l'élixir de longue vie prolonge l'existence, mais il doit être bu régulièrement si celui qui le possède veut maintenir son immortalité. Par conséquent, Voldemort aurait été entièrement dépendant de l'élixir, et s'il en avait manqué, ou s'il avait été contaminé par un poison, ou encore si on lui avait volé la pierre, il serait mort comme n'importe quel autre homme. « Souviens-toi que Voldemort aime agir seul. » Je suis persuadé que l'idée de dépendre ne serait-ce que d'un élixir lui était intolérable. Bien entendu, il était prêt à en boire si cela avait pu le sortir de cet horrible semblant de vie auquel il était condamné après t'avoir attaqué. Mais il ne l'aurait fait que pour retrouver une existence corporelle. Par la suite, j'en suis certain, il aurait continué à se fier à ses Horcrux. Il n'aurait eu besoin de rien d'autre si seulement il avait pu reprendre forme humaine. Il était déjà immortel, comprends-tu, ou aussi proche qu'on puisse l'être de l'immortalité. Mais maintenant, Harry, armé de cette information, ce souvenir crucial que tu as réussi à nous procurer, nous sommes plus près que personne ne l'a jamais été du secret qui permettra d'éliminer Lord Voldemort. Tu l'as entendu, Harry. N'obtiendrait-on pas un meilleur résultat, une plus grande force, si l'on parvenait à diviser son âme en plusieurs morceaux? Le chiffre 7 n'est-il pas celui qui possède la plus grande puissance magique?
Le chiffre 7 n'est-il pas celui qui possède la plus grande puissance magique ?
Oui, je crois que l'idée d'une âme séparée en 7 parties séduirait beaucoup Lord Voldemort.
Il a créé 7 horcruxes ? S'écria Harry frappé d'horreur, tandis que plusieurs des portraits accrochés au mur exprimaient par des exclamations semblables leur effarement et leur indignation. Mais il pourrait être n'importe où dans le monde, caché, enterré ou invisible.
« Je suis content de voir que tu mesures l'ampleur du problème, »
dit Dumbledore avec calme.
« Mais d'abord, non, Harry, pas 7 horcrux, 6. La 7e partie de son âme, bien que mutilée, réside dans son corps régénéré. C'est la part de lui-même qui a vécu une existence spectrale pendant de si nombreuses années au cours de son exil. Sans cela, il n'existerait plus en tant que personne. Cette 7e parcelle de son âme sera celle que devra attaquer en dernier quiconque souhaite tuer Voldemort, la partie qui se trouve dans son corps.
« Mais c'est 6 horcruxes alors ?»
dit Harry, gagné par le désespoir.
« Comment allons-nous les trouver ?»«
Tu oublies, tu en as déjà détruit un, et j'en ai détruit un autre.
« Vous ?» s'exclama Harry, impatient de savoir.
« Oui, »
répondit Dumbledore. Il leva sa main noircie, brûlée.
« La bague, Harry, la bague de Gaunt. Elle contenait aussi un terrible maléfice. Pardonne-moi mon manque apparent de modestie. » Mais sans mes prodigieux pouvoirs et sans l'action opportune du professeur Rogue, lorsque je suis revenu à Poudlard, très gravement blessé, je ne serais peut-être plus là pour te raconter cette histoire. Une main desséchée ne semble pas toutefois un prix trop élevé à payer en échange d'un 7e de l'âme de Voldemort. La bague n'est plus un horcrux.
Mais comment l'avez-vous trouvée ?
Eh bien, comme tu le sais maintenant, je me suis appliqué pendant de nombreuses années à découvrir tout ce que je pouvais sur la vie passée de Lord Voldemort. J'ai beaucoup voyagé pour me rendre dans les endroits qu'il a connus, et je suis tombé sur la bague en fouillant les ruines de la maison des Gaunt. Il semble que Voldemort, après avoir réussi à y cacher une partie de son âme, n'ait plus voulu la porter. Il l'a donc dissimulé, protégé par de nombreux enchantements dans la masure où ses ancêtres avaient autrefois vécu. Morfin, bien sûr, ayant été envoyé à Azkaban, sans se douter que je pourrais un jour prendre la peine de visiter cette ruine ou de chercher les indices d'une cachette magique. Nous ne devons pas pourtant nous féliciter trop chaleureusement. Tu as détruit le journal intime et moi la bague, mais si nous avons vu juste dans notre théorie d'une âme divisée en 7, il reste 4 horcrux.
Et ce pourrait être n'importe quoi, interrogea Harry. De vieilles boîtes de conserve ou je ne sais pas, des flacons de potions vides.
Ah, tu penses aux portes au loin, qui doivent être des objets ordinaires, choisis pour ne pas attirer l'attention. Mais Lord Voldemort utilisait des boîtes de conserve ou des flacons vides pour enfermer sa précieuse âme. Tu oublies ce que je t'ai montré. Il aimait rassembler des trophées, et il préférait les objets chargés d'un passé de puissante magie. Son orgueil, sa foi en sa propre supériorité, sa détermination à se tailler une place exceptionnelle dans l'histoire de la magie. Tout cela me laisse penser que Voldemort a dû sélectionner ses horcruxes avec beaucoup de soin, privilégiant des objets dignes d'un tel honneur.
Le journal intime n'avait rien de spécial.
Ce journal, comme tu l'as dit toi-même, apportait la preuve qu'il était l'héritier de Serpentard. Je suis convaincu que, aux yeux de Voldemort, il avait une prodigieuse importance.
Et vous pensez savoir ce que sont les autres horcruxes, monsieur ? Demanda Harry.
Je ne peux que deviner,
répondit Dumbledore.
Pour les raisons que j'ai exposées, je crois que Voldemort devait préférer des objets qui possèdent en eux-mêmes une certaine grandeur. J'ai par conséquent mené des recherches dans son passé en espérant découvrir des indications que de tels objets avaient disparu autour de lui.
« Le médaillon !» s'écria soudain Harry. « La coupe de Poufsouffle !»«
Oui !»
approuva Dumbledore avec un sourire.
« Je serai prêt à mettre mon autre main au feu, enfin disons deux doigts, qu'ils sont devenus les Horcruxes numéro 3 et 4. » Les deux derniers, en admettant, encore une fois, qu'il en ait créé 6 au total, posent un plus grand problème. Mais je me risquerais à supposer qu'après avoir obtenu des objets de Serpentard et de Poufsouffle, il s'est mis en quête d'en trouver qui est appartenu à Gryffondor ou à Serdaigle. 4 objets, venant chacun d'un des fondateurs de Poudlard, aurait exercé, j'en suis sûr, une très puissante attirance sur l'imagination de Voldemort. Je ne sais pas s'il a jamais réussi à se procurer quelque chose qui ait été en possession de Serdaigle, mais je suis certain que la seule relique connue de Gryffondor demeure en sûreté. »
Dumbledore désigna de ses doigts noircis le mur derrière lui. Dans une vitrine reposait une épée incrustée de rubis.
Pensez-vous que c'était la raison pour laquelle il tenait tant à revenir à Poudlard, monsieur ? Demanda Harry. Pour essayer de trouver des objets issus des autres fondateurs ?
Je le pense, en effet. Malheureusement, cela ne nous avance guère, car il a été éconduit, sans avoir eu l'occasion, c'est du moins ce que je crois, de fouiller l'école. Je suis forcé d'en conclure qu'il n'a jamais réalisé son ambition de rassembler 4 objets possédés autrefois par les fondateurs. Il en a obtenu 2, sans aucun doute. Peut-être même il en a trouvé 3, mais on ne peut rien savoir de plus pour l'instant.
Même s'il en a eu 1 de Serdaigle ou de Gryffondor, il reste un 6e Horcrux, dit Harry en comptant sur ses doigts. À moins que finalement, il en ait eu 1 de chaque.
Je ne le pense pas,
répondit Dumbledore.
Je crois savoir ce qu'est le 6e Horcrux. Je me demande ce que tu vas dire quand je t'avouerai que je m'intéresse depuis un certain temps au comportement de ce serpent Nagini.
Le serpent ? S'étonna Harry.
On peut se servir d'un animal comme Horcrux ?
Ça n'est pas conseillé, car confier une partie de son âme à un être capable de penser et de se déplacer par lui-même présente bien évidemment un grand risque. Mais, si mes calculs sont exacts, il manquait toujours à Voldemort un Horcrux pour arriver au nombre de 6 lorsqu'il est entré dans la maison de tes parents avec l'intention de te tuer. Il semble avoir réservé à la création de ces Horcruxes des victimes dont la mort avait une signification particulière. Tu aurais certainement été l'une d'elles. Il croyait qu'en te tuant, il allait supprimer le danger que la prophétie annonçait. Il pensait qu'il allait se rendre invincible. Je suis persuadé que c'est par ta mort qu'il avait l'intention de créer son dernier Horcrux. Comme nous le savons, il a échoué. Au bout d'un certain nombre d'années, cependant, il s'est servi de Nagini pour tuer un vieux moldu, et il lui est peut-être venu à l'idée, à ce moment-là, de faire du serpent son dernier Horcrux. L'animal soulignait le lien avec Serpentard, ce qui ne pouvait que renforcer la mystique de Lord Voldemort. Je ne serais pas étonné qu'il lui porte une affection plus grande qu'à n'importe qui d'autre. Il aime le garder à ses côtés et exerce sur lui un contrôle inhabituel, même pour un fourche-langue.
« Donc, reprit Harry,
Le journal intime n'existe plus, la bague n'existe plus, la coupe, le médaillon et le serpent sont toujours intacts, et vous pensez qu'il pourrait exister un horcrux qui ait appartenu un jour à Serdaigle ou à Griffon d'Or ?
Voilà un résumé admirable de concision et d'exactitude,
dit Dumbledore en inclinant la tête. Et vous les cherchez toujours, monsieur. C'est pour essayer de les trouver que vous vous absentez de l'école.
Exact, admit Dumbledore. Je les cherche depuis très longtemps. Je pense peut-être être sur le point d'en découvrir un autre. Il y a des signes encourageants.
Si vous y arrivez, est-ce que je pourrais venir avec vous et vous aider à vous en débarrasser ? Demanda précipitamment Harry. Dumbledore le fixa d'un regard intense avant de répondre.
« Oui, je pense. »«
Vraiment ?» dit Harry, proprement stupéfait.
« Oui, »
assura Dumbledore en esquissant un sourire.
« Il me semble que tu as gagné ce droit. »
Harry sentit son cœur devenir plus léger. C'était un grand plaisir d'entendre parler pour une fois d'autre chose que de prudence et de sécurité. Tout autour de la pièce, les anciens directeurs et directrices paraissaient moins favorablement impressionnés par la décision de Dumbledore. Harry en vit quelques-uns hocher la tête et Phineas Nigellus renifla d'un air dédaigneux. « Est-ce que Voldemort le sait ? Lorsqu'un horcrux est détruit, peut-il le sentir ?» interrogea Harry, indifférent au portrait.
« Une question très intéressante, Harry. Je ne le crois pas. À mon avis, Voldemort est à présent si profondément immergé dans le mal et ses fragments essentiels de son être depuis si longtemps détachés de lui qu'il n'a plus la même sensibilité que nous. Peut-être qu'à l'article de la mort, il prendrait conscience de sa perte. Mais il n'a pas su, par exemple, que le journal intime était détruit jusqu'à ce qu'il oblige Lucius Malfoy à lui révéler la vérité. Lorsque Voldemort a appris que le journal avait été mutilé et privé de tous ses pouvoirs, j'ai entendu dire qu'il était entré dans une terrible colère.
Mais je croyais qu'il voulait que Lucius Malfoy introduise le journal à Poudlard.
Oui, ben oui, il y a des années, quand il était sûr de pouvoir créer d'autres horcruxes. Mais Lucius devait quand même attendre son feu vert. Or, il ne l'a jamais eu, car Voldemort a disparu peu après lui avoir confié le journal. Sans doute avait-il cru que Lucius conserverait soigneusement l'horcrux sans oser en faire usage, mais c'était trop compté sur la crainte que pouvait inspirer un maître disparu depuis des années et que Lucius croyait mort. Bien entendu, ce dernier ne connaissait pas la véritable nature du journal. Voldemort lui avait dit « J'imagine qu'il provoquerait la réouverture de la Chambre des Secrets grâce aux habiles sortilèges dont il était doté. » Si Lucius avait su qu'il détenait entre ses mains une portion de l'âme de son maître, il l'aurait très certainement traité avec infiniment plus de révérence. Mais au lieu de cela, il s'en est tenu au plan d'origine, à seule fin de servir ses propres objectifs. En donnant à son insu le journal à la fille d'Arthur Wesley, il espérait tout à la fois discréditer Arthur, me faire renvoyer de Poudlard et se débarrasser d'un objet hautement compromettant. Pauvre Lucius. Après la colère de Voldemort furieux qu'il ait gâché un horcrux pour son propre bénéfice et le fiasco du ministère l'année dernière, je ne serais pas étonné qu'il soit secrètement content d'être en sécurité à Azkaban pour le moment.
Harry resta songeur un instant, puis il demanda « Donc, si tous ces horcrux étaient détruits, il serait possible de tuer Voldemort ?»«
Je le crois, »
répondit Dumbledore.
« Sans ces horcrux, Voldemort ne sera plus qu'un homme mortel, avec une âme mutilée, diminuée. N'oublie jamais, cependant, que même si son âme est à jamais dénaturée, son cerveau et sa puissance magique restent intacts. Il faudra une habileté et un pouvoir hors du commun pour parvenir à tuer un sorcier tel que Voldemort, même privé de ses horcruxes.
Mais je n'ai pas une habileté et un pouvoir hors du commun, dit Harry avant d'avoir pu s'en empêcher.
Si, tu l'as,
répliqua Dumbledore avec fermeté.
Tu possèdes un pouvoir qui a toujours manqué à Voldemort, le pouvoir de...
Je sais, l'interrompit Harry, agacé, le pouvoir d'aimer. Il eut beaucoup de mal à ne pas ajouter, et alors...
Oui, tu es capable d'aimer,
reprit Dumbledore, qui avait l'air de savoir parfaitement ce que Harry s'était retenu de dire.
Et compte tenu de tout ce qui t'est arrivé, c'est une chose merveilleuse et remarquable. Tu es encore trop jeune pour comprendre à quel point tu es exceptionnel, Harry.
Alors, quand la prophétie dit que j'aurai un pouvoir que le Seigneur des Ténèbres ignore, cela signifie simplement l'amour ? Interrogea Harry un peu déçu.
Oui, simplement l'amour,
répéta Dumbledore.
Mais ne l'oublie jamais, Harry, ce que dit la prophétie n'a de sens que parce que Voldemort lui en a donné un. Je te l'ai expliqué à la fin de l'année dernière. Voldemort t'a désigné comme son ennemi le plus dangereux. Et c'est ainsi qu'il a véritablement fait de toi le plus grand danger qui le menace.
Mais cela revient au même.
Pas du tout,
coupa Dumbledore, qui semblait à présent irrité. Pointant l'index de sa main desséchée sur Harry, il poursuivit.
Tu accordes trop d'importance à la prophétie.
Mais, balbutia Harry, vous m'avez dit vous-même que la prophétie signifie...
Si Voldemort n'en avait jamais entendu parler, se serait-elle accomplie ? Aurait-elle eu un sens ? Bien sûr que non. Crois-tu que chaque prophétie contenue dans la salle du ministère a été réalisée ?
Mais, répéta Harry décontenancé, l'année dernière, vous avez dit que l'un de nous deux devrait tuer l'autre.
Harry, Harry, simplement parce que Voldemort a commis une grave erreur et a agi en fonction des paroles du professeur Trelawney. S'il n'avait pas assassiné ton père, t'aurait-il inspiré un furieux désir de vengeance ? Bien sûr que non. S'il n'avait pas obligé ta mère à mourir pour toi, t'aurait-il donné une protection magique qu'il ne pouvait pénétrer ? Bien sûr que non, Harry. Tu ne comprends donc pas. Voldemort s'est créé lui-même son pire ennemi, comme le font toujours les tyrans partout dans le monde. Sais-tu à quel point ces tyrans craignent les peuples qu'ils oppressent ? Chacun d'eux sait très bien qu'un jour, parmi ces nombreuses victimes, il y en aura forcément une qui se lèvera et frappera à son tour. Voldemort n'est pas différent. Il a toujours guetté celui qui le défierait. Dès qu'il a connu la prophétie, il est aussitôt passé à l'action. Et le résultat, c'est que non seulement il a choisi l'homme le plus susceptible de le vaincre, mais qu'il lui a également fourni les armes les plus mortelles qui soient.
Mais...
Il est essentiel que tu saches cela,
insista Dumbledore. Il se leva et fit les 100 pas dans la pièce, sa robe chatoyante virevoltant dans son sillage. Harry ne l'avait jamais vu aussi agité.
En essayant de te tuer, Voldemort a distingué la personne remarquable qui est assise devant moi et lui a fourni les instruments pour mener à bien sa tâche. C'est la faute de Voldemort si tu as été capable de lire dans ses pensées, de connaître ses ambitions et même de comprendre le langage des serpents dans lesquels il donne ses ordres. Pourtant, Harry, en dépit de ce privilège que tu as eu de pénétrer dans son monde, et que soit dit en passant, n'importe quel mange-mort serait prêt à tuer pour posséder. Tu n'as jamais été séduit par les forces du mal. Jamais. Pas même l'espace d'une seconde. Tu n'as manifesté le moindre désir de devenir l'un des partisans de Voldemort.
Bien sûr que non, s'exclama Harry indigné. Il a tué ma mère et mon père.
Bref, tu es protégé par ta capacité à aimer,
dit Dumbledore avec force.
La seule protection qui soit efficace contre la séduction d'un pouvoir tel que celui de Voldemort. Malgré toutes les tentations que tu as endurées, malgré toutes tes souffrances, tu as gardé un cœur pur, aussi pur que lorsque tu avais 11 ans et que tu contemplais un miroir qui reflétait tes désirs les plus profonds. Tu n'y as vu alors que le moyen de lutter contre Voldemort et non pas l'immortalité ou la richesse. Harry, sais-tu combien sont rares les sorciers capables de voir ce que tu as vu dans ce miroir ? Voldemort aurait dû savoir à qui il avait affaire, mais il en a été incapable. À présent, il sait. Tu t'es glissé dans son esprit, sans dommage pour toi-même, mais lui ne peut te posséder sans subir une mortelle souffrance, comme il l'a découvert au ministère. Je ne pense pas qu'il en connaisse la raison, Harry. Mais dans sa hâte de mutiler sa propre âme, il n'a jamais pris le temps de comprendre le pouvoir incomparable que possède une âme entière et sans tache.
« Mais, monsieur, répondit Harry en faisant de louables efforts pour ne pas avoir l'air de le contredire, tout ça revient à la même chose, non ? Je dois essayer de le tuer, sinon... »«
Tu dois, dit Dumbledore. Bien sûr que tu le dois, mais pas à cause de la prophétie. Tu le dois parce que toi-même, tu ne pourras vivre en paix tant que tu n'auras pas essayé. Nous le savons tous les deux. Imagine, s'il te plaît, rien qu'un instant, que tu n'aies jamais entendu la prophétie. Quels seraient tes sentiments à l'égard de Voldemort, à présent ? Pense-y. »
Harry regarda Dumbledore arpenter le bureau et réfléchit. Il songea à sa mère, à son père et à Sirius. Il songea à Cédric Diggory. Il songea à tous les terribles méfaits commis par Voldemort. Une flamme sembla alors jaillir dans sa poitrine et lui dessécher la gorge. « Je voudrais qu'on le tue, » dit Harry à voix basse. « Et je voudrais m'en charger moi-même. »«
Bien sûr que tu le voudrais !»
s'écria Dumbledore.
« Vois-tu, la prophétie ne signifie pas que tu doives faire quelque chose, mais c'est elle qui a amené Lord Voldemort à te marquer comme son égal. Autrement dit, tu es libre de choisir ta voie, libre de tourner le dos à la prophétie, mais Voldemort, lui, continuera à s'y tenir, il continuera à te traquer, et donc... « Inévitablement. »
« L'un de nous deux finira par tuer l'autre, » acheva Harry. Oui, il comprenait enfin ce que Dumbledore avait essayé de lui expliquer. C'était, pensa-t-il, la différence entre être traîné dans l'arène pour livrer un combat à mort et entrer dans cette même arène, la tête haute. Certains diraient peut-être qu'entre les deux voies, le choix était limité. Mais Dumbledore savait, et moi aussi, songea Harry, avec un orgueil féroce, et mes parents aussi, qu'on ne pouvait imaginer plus grande différence.